Donc, je commence par remercier Angelo Giavato qui a travaillé dans notre équipe au CNRS et avec Isabelle Coff d'ailleurs. Et je suis très heureux d'être à Nantes, qui est un centre d'études néoplatoniciennes, même si les études néoplatoniciennes sont très minoritaires dans le domaine de la philosophie. Nantes, c'est toujours caractérisé justement par un intérêt pour le néoplatonisme. Donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc la communication que je vais faire aujourd'hui comprendra deux parties. Une première partie où je vais essayer de situer Plotin dans l'histoire de la philosophie. Donc je vais couvrir 6 siècles, je vais paraître affreusement dogmatique, c'est vrai. En fait, je le suis beaucoup moins dans la réalité, mais pour parler, pour essayer de résumer 6 siècles en 15 ou 20 minutes, on ne peut pas ne pas être dogmatique. Et donc, je vous ai distribué un exemplier. Vous pourrez suivre cette présentation générale sur la première page où il y a un schéma. Et puis ensuite, de façon à rendre les choses plus concrète, je lirai 3 textes qui se trouvent sur la 2e page de votre exemplier. 3 textes que je vais essayer de commenter très rapidement et que j'estime être particulièrement, non seulement intéressants, mais aussi très très beaux, comme on le verra. Donc, je commence par quelques remarques. Quand nous avons voulu faire une nouvelle traduction de Plotin dans Garnier Flammarion, nous avions 2 objectifs. Il y avait premièrement un objectif d'ordre littéraire ou formel, c'est-à-dire de bien faire ressortir que les traités de Plotin n'étaient pas des exposés systématiques, mais un dialogue qui était très différent du dialogue platonicien, c'est-à-dire, ce n'est pas Socrate ou l'étranger d'Élée qui discute à Athènes dans la rue ou dans une demeure quelconque, mais un dialogue entre Plotin et ses disciples, ceux qui venaient l'écouter dans la maison de la riche veuve où il enseignait. Et donc, c'est ce qu'on peut lire dans le chapitre 13 de la vie de Plotin. Donc, il faut toujours penser que les traités de Plotin sont des dialogues entre un maître et ses disciples. La deuxième chose, le deuxième objectif que nous nous étions donné, c'est d'essayer de modifier le point d'équilibre de l'interprétation de Plotin. Quand on regarde l'édition faite par Porphyre, c'est-à-dire les Énéades, c'est 6 novennes de traité, on s'aperçoit que la forme même matérielle de cette édition laisse apparaître que le monde sensible était une préoccupation essentielle pour Plotin, même s'il était un platonicien. En effet, les Énéades étaient disposées dans 3 codex, en gros 3 volumes. Dans le premier, on trouve la première Énéade qui regroupait les traités à dominante morale, la 2e Énéade qui regroupe les traités sur la nature, c'est-à-dire sur le monde qui nous entoure, et la 3e Énéade qui poursuit dans le même sens, donc sur le destin, la providence, les démons, sur l'amour, qui est un démon, sur l'éternité et le temps. Dans le second volume, on trouvait la 4e Énéade qui comporte des traités portant sur l'âme et la 5e qui comporte les traités portant sur l'intellect. Donc on a le 2/3 de la production platinienne qui porte sur le monde sensible et sur les explications que l'on porte sur le monde sensible. Et c'est seulement dans le 3e volume qu'on trouve la 6e Énéade qui porte exclusivement sur l'un. Et donc, je pense que cette journée platinienne aujourd'hui recouvre bien cette répartition. Isabelle Koch a parlé de la matière, Philippe parlera du temps et de l'éternité, Jean-François Balaudet parlera de l'âme, et donc il restera Robert Millet qui nous parlera de la liberté et de la volonté de l'un, qui est un sujet absolument extraordinaire, parce que comment peut-on donner la volonté et la liberté à quelque chose qui se trouve au-delà de l'être? Mais ça, Robert Miller nous en parlera. Donc, première partie de l'exposé, je voudrais essentiellement montrer comment s'explique philosophiquement la pensée de Plotin concernant le sensible et tout ce qui l'entoure. Donc le point de départ de Plotin, c'est bien évidemment Platon, et me semble-t-il, même si je peux penser un peu, être un peu obsédé par le Timée de Platon sur lequel portait ma thèse en 68, je pense que le point de départ de la pensée de Plotin concernant le monde sensible, c'est la cosmologie du Timée de Platon. Et donc, quoi qu'on puisse en penser, je pense que les trois questions fondamentales que se pose Platon, ce n'est pas de fuir le devenir, ce n'est pas de fuir le monde sensible, mais c'est de savoir de quelle façon on arrive à décrire ce monde sensible, de quelle façon on peut le connaître, et comment il est possible d'y agir efficacement. Or, pour arriver à répondre à ces trois questions, il faut que le monde qui nous entoure ait assez de permanence et de régularité. Et je pense que tout l'effort de Platon, c'est d'essayer d'expliquer comment le monde qui nous entoure présente assez de permanence et de régularité pour qu'on puisse en parler, le penser et y agir. Et c'est la raison pour laquelle Platon fait cette hypothèse qui nous semble complètement absurde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il existe un monde de réalité intelligible qui sont les modèles des réalités sensibles qui ne sont que des images. Et je pense qu'une bonne partie de l'histoire de la philosophie après Platon dépend de cette problématique. Parce que si on estime que les choses sensibles sont les images de l'intelligible, ça pose un énorme problème auquel Platon va chercher à répondre dans le Timée. En effet, une image, c'est quelque chose qui ressemble à un modèle, mais c'est quelque chose qui en est différent. Dans le Timée, Platon fait appel à deux, moi ce que j'appelle des fictions. Des fictions, ça ne veut pas dire quelque chose qui est complètement irréel. Par exemple, on peut dire que le contrat social de Rousseau est une fiction. Il n'y a jamais eu de contrat social, bien évidemment, mais d'un point de vue de la pensée politique, le contrat social est un point essentiel. Donc, Platon fait l'hypothèse de deux fictions dans le Timée. La première fiction, c'est la Cora, dont a parlé Isabelle Koch. La Cora explique comment les choses sensibles sont différentes de leur modèle. Elles sont différentes de leur modèle simplement parce que dans le sensible, il n'y a pas possibilité d'interpénétration des choses les unes avec les autres. Ces choses se trouvent dans l'espace, elles sont séparées. Et leurs modifications, leurs transformations se situent toujours dans un lieu déterminé, ce qui n'est pas le cas dans l'intelligible. Première fiction, la Cora, dont nous a parlé Isabelle Koch. Et on verra, comme elle l'a bien expliqué, comment chez Plotin ça se modifie de façon radicale. La deuxième fiction, c'est le démiurge. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. En effet, quand on regarde le Timée, on s'aperçoit que les choses sensibles sont fabriquées par un démiurgos, en gros un artisan, qui contemple des formes et qui met un certain ordre dans la Cora en utilisant les mathématiques, qu'il s'agisse de l'âme du monde pour l'astronomie ou qu'il s'agisse des polyèdres réguliers pour les corps. Donc, je ne vais pas parler de cette manipulation, je ne vais pas parler non plus de cet enjeu mathématique, tout simplement parce que tout de suite après Platon, ces deux fictions seront critiquées de façon absolument radicale par Aristote, et même les platoniciens vont accepter les deux critiques aristotéliciennes. Et c'est la raison pour laquelle Platon est si différent de Platon. Donc, je le répète, pour arriver à rendre, à expliquer comment les choses sensibles ressemblent à l'intelligible, Platon fait l'hypothèse d'un démiurge, c'est-à-dire d'un artisan qui va fabriquer les choses sensibles. Et pour expliquer comment les choses sensibles sont différentes de l'intelligible, il fait l'hypothèse de la Cora. Alors, tout de suite, Aristote va critiquer de façon radicale la pensée de Platon dans le Timée. La première critique, c'est celle de la Cora qu'on trouve en physique, livre 4, chapitre 2, 209a à 210a. Et vous allez voir comment on peut relier tout ça à la communication d'Isabelle Koch. J'ai fait une analyse de ce passage très important de la physique dans lecture de Platon. Enfin, vous le trouverez, c'est l'annexe 1 d'un article que j'ai fait sur présupposés et conséquences de l'interprétation ésotériste de Platon. Alors, qu'est-ce que Aristote reproche à Platon ? Aristote reproche à Platon, en analysant le terme Kora, il lui reproche le fait que Platon réduit ce que Platon, en parlant de la Kora, parle d'une matière première manquée. Une matière première manquée, tout simplement parce que la Kora, en grec, renvoie à la notion d'espace, de territoire. Aristote dit, mais comment peut-on faire la physique avec une notion comme celle de Kora qui nous renvoie exclusivement à l'espace ? Si ça nous renvoie à l'espace, on peut faire la géométrie, mais on ne peut pas faire la physique. Et c'est la raison pour laquelle Aristote refuse cette notion de Kora et va parler de Ulé. Et le terme Ulé, après Aristote, c'est absolument définitif. On ne parle plus, après Aristote, de matière qu'en utilisant le terme Ulé. Et en n'utilisant pas le terme Kora, Pandekes, comme chez Platon, ça modifie de façon radicale l'idée de matière. En d'autres termes, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'Aristote quand on parle de matière, sauf à revenir à Platon, comme j'ai essayé de le faire dans mon livre sur le Timée de Platon, en montrant qu'effectivement, Aristote a tort de dire que la Kora, c'est exclusivement l'espace. La Kora, c'est aussi quelque chose de constitutif. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise ce terme bizarroïde, qui est celui de milieu spatial. C'est non seulement l'espace dans lequel se trouvent les choses sensibles, mais c'est aussi ce dont sont fabriquées les choses sensibles. Et ça, Aristote le refuse radicalement et donc va imposer non seulement le terme « ulé » pour la matière, mais le concept aussi, la notion. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la critique qu'Aristote fait du démiurge. C'est des critiques qui sont plus ou moins implicites dans la mesure où elles étaient acceptées dans l'ancienne académie, c'est-à-dire parmi les disciples même de Platon. Ces critiques sont absolument essentielles et, encore une fois, après Aristote, c'est fini, le démiurge disparaît complètement, même si les néoplatoniciens vont utiliser le terme. Chez les néoplatoniciens, le terme démiurge n'a rien à voir avec le démiurge chez Platon. Donc, quelles sont ces critiques? Il y en a trois ou quatre, ça dépend comment on voit les choses. Dans la mesure où il doit... Donc, le démiurge du Timée travaille. Il travaille comme un métallurge, un charpentier, quelqu'un qui modèle la cire, etc. C'est quelqu'un qui... un potier. C'est quelqu'un qui travaille. Et ça, c'est absolument insupportable pour un grec dans la mesure où le démiurge est un dieu et qu'un dieu doit être autarcique. Alors, le démiurge, dans la mesure où il travaille, n'est pas autarcique, il doit regarder un plan et il doit utiliser une matière qui lui résiste. Et ça, donc, c'est la première critique, et c'est une critique qui est absolument délimante, et on ne peut pas passer à côté. Deuxièmement, assimiler le travail du démiurge à un artisan, c'est rabaisser sa figure, même d'un point de vue humain, étant donné la situation du travailleur manuel dans la cité grecque. Là-dessus, je renvoie à aux articles de Vernon sur le travail dans l'Antiquité grecque, et il y a eu un colloque où Philippe participait, était un participant, et tu as écrit un article sur, un article excellent, et donc qui montre bien que pour un grec, le travail rabaissait l'être humain dans la mesure où l'artisan était dépendant de l'utilisateur. Donc dans l'Antiquité, la valeur d'usage, contrairement à ce qu'on trouve chez Marx dans le capitalisme moderne, prévalait sur la valeur sur la valeur d'échange. En gros, ce qui était important dans une chaussure, ce n'était pas le prix. Ce qui était important, c'était pas le prix, ce n'était pas de créer le besoin, mais c'était de répondre à un besoin. Et donc, l'artisan était dépendant de l'utilisateur, et étant dépendant de l'utilisateur, ça l'assimilait d'une certaine façon à un esclave. C'est la deuxième critique d'Aristote. Donc, le démiurge ne peut pas être un dieu, ça, c'est un être humain au rabais. Et si le démiurge fabrique le monde comme un artisan, et là, c'est la grande critique philosophique, il doit d'abord penser à son projet et le mettre en œuvre. Ça signifie que le monde est fabriqué dans le temps, et pour un grec, si une chose est fabriquée dans le temps ou née dans le temps, elle doit disparaître. Donc, le monde doit disparaître. Et pour la pensée grecque, le monde ne peut pas disparaître. Et par voie de conséquence, le monde ne peut pas apparaître dans le temps. Et donc, ce sont les trois critiques les plus essentielles faites par Aristote, mais pas seulement par lui, par l'ancienne Académie, les disciples même de Platon, contre le démiurge du Timée. Et donc, voilà pourquoi chez Aristote, le monde n'est plus un produit artificiel, produit par un démiurge, mais un être naturel qui vit et possède en lui-même le principe de son comportement. Donc, ce principe a pour nom nature, et ça c'est très important pour Platon, c'est l'ensemble des réalités physiques ressorties sur la nature qui peut être définie ainsi. C'est une définition qu'on trouve dans la physique, livre 2, chapitre 1, 192b, 20-22. La nature, physis, est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par essence et non par accident. Donc, ça signifie que le monde qui échappe à toute contingence et à toute intermittence procède suivant la nature qui agit comme un bon intendant et qui choisit toujours entre les possibles ce qu'il y a le meilleur. Donc, Platon avec le Timée, les deux critiques d'Aristote, et on arrive aux stoïciens. Et avec les stoïciens, on se trouve dans le contexte philosophique où baignait Platon. Platon vivait dans un contexte absolument dominé par le stoïcisme, et il devait en tenir compte, et comme on le verra, il en tient vraiment compte. Donc pour les stoïciens, et ça les rapproche d'Aristote, l'univers est une unité vivante, autocréatrice, organisée suivant des lois rationnelles et gouvernée dans ses moindres détails par la Providence. C'est toutes des choses qui vont être reprises par Platon. C'est cet univers qui est une unité vivante et organisée à partir de deux principes. L'un qui n'a d'autre capacité que de pâtir, c'est la matière, la hulé, c'est le terme aristotélicien, qui est dépourvu de toute détermination, de tout mouvement et de toute initiative. Et encore une fois, Plotin va vraiment dans ce sens-là. Même si la grande opposition de, comme l'a dit Isabelle Koch, la grande opposition de Plotin par rapport aux stoïciens, c'est que la hulène est incorporelle. Ça n'a rien à voir avec les corps. Donc, le premier principe, c'est la hulée qui pâtit. Et le deuxième principe, et encore une fois, on arrive à mon sujet, c'est le logos. C'est la raison, ce qu'on traduit par raison. Et donc, tout en, dans l'univers dépend de la présence du logos. Et le logos, qui est considéré comme un dieu, qui est assimilé à Zeus, est présenté jusqu'à un certain point comme un corps. Le logos, c'est un feu intelligent qui organise la matière et qui fait apparaître tous les corps à partir notamment des quatre éléments. Et ce logos a un nom, c'est le pneuma. Et ce pneuma présente quatre états déterminés. Donc, quatre états qui correspondent à une tension de ce logos. Et donc, dans les choses inanimées, le pneuma a pour nom exis, qui est un terme très difficile à traduire, qui signifie constitution, tenue, maintien. Donc, c'est ce qui explique qu'un morceau de bois est un morceau de bois, qu'il est ce qu'il est, qu'il ne va pas se transformer en pierre, etc., etc. Donc, le pneuma, au niveau des choses inanimées, se présente comme un, comme exis, c'est-à-dire comme constitution, maintien. Dans les plantes, ce pneuma se présente comme croissance, comme fusis. Et c'est le règne végétal. Un peu plus élevé, on trouve la notion de âme, de psyché, qui explique tous les êtres animés qui ne sont pas des plantes, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Et donc, ces quatre états du pneuma permettent d'expliquer le monde qui nous entoure dans toute sa diversité, c'est-à-dire les êtres inanimés, les végétaux, les animaux, et donc et tout ce qui dépasse le monde animal. Et donc, le logos, et c'est absolument essentiel, a deux rôles chez les stoïciens, et on va retrouver les deux mêmes rôles chez Plotin. Il a le rôle de constitution, de fabrication. Le logos, suivant ses différents états, permet l'apparition des choses sensibles. Mais aussi, le pneuma, le logos, a le rôle de providence. Il ne se borne pas à constituer les choses sensibles, il les régit, il les organise, il les administre. Et là, on arrive directement chez Plotin, et vous pouvez suivre sur votre exemplier à partir du schéma. Donc, Plotin vit dans un contexte dominé par les stoïciens et la pensée plotinienne est une réponse, en grande partie, une réponse platonicienne aux stoïciens. Donc, face à cette doctrine d'une très grande cohérence, où il faut prendre un peu d'eau parce que je... Donc, Plotin doit répondre aux stoïciens. Et il le fait en platonicien. Face à cette doctrine d'une grande cohérence, Plotin exprime sa fidélité au platonisme en articulant sa pensée autour des trois hypothèses suivantes. Donc, si vous suivez sur le schéma, l'un, qui est au-delà de l'être, dont vient l'intellect et l'intelligible, c'est-à-dire que chez Plotin, les formes sont indissociables de l'intellect qui les pense. Et enfin, l'âme hypostase, c'est-à-dire l'âme conçue comme non associée à un corps, ce qui est jusqu'à un certain point là aussi une fiction dans la mesure où toutes les âmes sont associées à des corps. Donc, quelques mots d'abord sur l'intellect dont vient l'âme. Pour situer ce logos dans cette structure et comprendre son rôle, il faut évoquer l'âme hypostase. Donc, associée à celle que pose son origine, la question de savoir ce qui distingue l'âme de l'intelligible entraîne de redoutables difficultés. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre que les formes qui se trouvent dans l'intellect se trouvent au Mupanta, qui est supposé être un slogan d'Anaxagore, mais en fait qui a été détourné de son sens. Les formes se trouvent toutes ensemble, alors que dans l'âme, les formes vont se retrouver de façon séparée, dissociée. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'intellect, l'intelligible a pour nom eidos, qui veut dire forme, et dans l'âme, ces mêmes intelligibles ont pour nom logos. Pour quelle raison, je l'ai dit, les eidés sont toutes ensemble, elles sont toutes visées par l'intellect en un acte intuitif indissociable, alors que dans l'âme, ces formes, ce sont les mêmes, sont dissociées. Et c'est absolument essentiel pour comprendre comment tout le reste va être fabriqué à partir de là. Donc, maintenant, donc on a l'un dont émane l'intellect, dont vient l'âme. Dans l'intellect, on trouve les eidés, les formes, et dans l'âme, on trouve les logoi, qui sont ces mêmes formes, mais séparées et dissociées les unes des autres. En fait, comme je l'ai dit, l'âme hypostase n'est qu'une fiction, dans la mesure où c'est une façon de concevoir l'ensemble de l'âme. Il n'y a que des âmes particulières. D'un côté, l'âme du monde, et de l'autre, les âmes, les autres âmes, celles des dieux, des démons, des hommes et des animaux. Donc, l'âme du monde va, comme chez les stoïciens, avoir deux rôles, un rôle providentiel et un rôle constitutif. Donc, par sa partie supérieure, si on peut dire, parce que c'est très difficile de justifier les choses en utilisant des textes, l'âme du monde contemple les intelligibles dans la mesure où elle possède tous les logoi de tout ce qui va être produit par la suite. Mais par sa partie la plus basse, qui est appelée par Plotin nature, l'âme du monde va fabriquer tout le monde sensible à partir des logoi qu'elle recèle. Donc la traduction du thème logos est extrêmement difficile. Dans la mesure où logos en grec, ça signifie le discours, ça signifie le rapport mathématique, ça signifie l'ordre et ça signifie la parole. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de logoi au niveau de l'âme, c'est que ces logoi, ce sont des formes intelligibles. Et que ces formes sont sous un autre aspect que dans l'intellect. Et ces logoi jouent en quelque sorte leur rôle, un peu comme on pourrait dire le rôle de l'ADN chez un être vivant. C'est en gros, Plotin, qui ne connaissait pas l'ADN, utilisait le terme sperma, la semence, le sperme, tout est dans un logos et va se déployer pour fabriquer les choses sensibles. Ou on pourrait prendre aussi l'idée du programme d'ordinateur. Un logos, c'est en gros le programme qui permet la constitution de textes, d'objets, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, Plotin se situe dans un contexte stoïcien, mais modifie de façon radicale les différentes notions stoïciennes. Donc on a de l'un dont émane l'intellect, dont vient l'âme, et l'âme du monde recèle tous les logoi qui correspondent aux formes intelligibles. Cette âme du monde va constituer le monde sensible. Mais on arrive à ce paradoxe qui a été décrit par Isabelle Koch, la fabrication de la matière par l'âme du monde. Il n'y a que trois passages absolument, pratiquement sûrs chez Plotin où l'âme du monde est décrite comme fabriquant la matière. Mais donc ces passages existent bien et il semble que la matière soit fabriquée par l'âme du monde. Plus tard, chez Proclus, par exemple, la matière sera fabriquée directement par l'un. Mais là, c'est fabriqué par l'âme du monde. Et le passage du traité 27 que vous a décrit, que vous a lu Isabelle Koch, est très parlant à ce sujet. Et c'est très intéressant parce que, comme vous allez le voir, l'âme du monde fabrique toutes les choses sensibles à partir des logoi, mais et les logoi étant assimilés à l'intelligible sont assimilés à une lumière. Lorsque cette lumière disparaît et que l'obscurité apparaît, c'est là que se trouve la matière. La matière, c'est l'obscurité, c'est ce qui est privé de logoi, c'est la limite l'éclairage produit par l'âme du monde. Donc, on a l'âme du monde qui s'étend, et à un moment donné, arrive à un point de non-retour qui est la matière, qui est l'obscurité. Cette matière, l'âme du monde, va la structurer. Et elle commence par la structurer à l'aide de la grandeur, de la mégéthos. Et ça, vous avez la description de cette première structuration, la structuration de la matière à partir de la grandeur, du mégéthos, dans le traité 12, qu'a cité souvent Isabelle Koch, au chapitre 11-12. Donc, vous avez la matière, et le premier logos qui est appliqué à la matière, c'est celle de la mégéthos. Et là, on arrive à ce qu'on appelle en grec l'onkos. Onkos, au point de départ, c'est un terme médical qui signifie la tumeur, la grosseur, et c'est la raison pour laquelle, quand on parle du cancer, on parle d'oncologie. Donc, la matière reçoit de l'âme du monde d'abord la grandeur. Et donc, on a la constitution d'un onkos, d'une masse informe, un morceau de matière, une masse informe. Et sur cette onkos, c'est-à-dire sur la matière qui a un mégéthos, c'est neutre en grec, en français c'est féminin, donc sur la matière qui a une grandeur, l'âme du monde va implanter les autres logoi, qui sont les poiotes, c'est-à-dire les qualités. C'est-à-dire, sur un morceau de matière, l'âme du monde va mettre, une tête, des oreilles, une queue, etc., etc., et une couleur jaune avec une crinière, ça va faire un lion, etc., etc. Donc, l'âme du monde constitue le monde sensible. Donc, en appliquant d'abord à la matière ce logos qui est la mégéthos, qui est la grandeur, et à cette onkos, l'âme du monde va ajouter les logoi, qui sont les qualités, les poiotes. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le corps, le soma. Donc on a fabrication de la matière, ajout de la grandeur, dont résulte l'onkos, et quand on ajoute les qualités à l'onkos, on trouve le corps. Et donc, c'est la constitution du monde sensible par l'âme du monde. Et donc, on voit très bien le rôle fondamental des logoi. Les logoi, ce sont les différentes qualités qui font que la matière devient un corps. Et ce qui est intéressant, et ce sur quoi j'insiste encore une fois, c'est que les logoi, ce sont des eidés, ce sont des formes. Et donc, en d'autres termes, on retrouve cette problématique platonicienne, c'est-à-dire que le monde sensible est intelligible parce que l'âme du monde y a implanté l'intelligible sous la forme des logoi. Et donc là, je n'aurai pas le temps avant de faire ma lecture, j'espère que... J'ai sur mon schéma indiqué donc à droite qu'il y a par la connaissance humaine une remontée vers l'intelligible. En effet, par la sensation, on reçoit des choses sensibles, des affections qui sont analysées par la sensation. Qui deviennent des représentations et qui, grâce à la raison discursive qui, elle, possède les logoi, remonte aux eidés par l'intermédiaire de l'intellect. En d'autres termes, toute l'épistémologie de Platon, et ça c'est aussi très intéressant, est assimilée à l'ontologie. À l'épistémologie des stoïciens. Et donc, grâce au logos, merci beaucoup, on a une unification de... une unification de la métaphysique, de l'épistémologie et de l'éthique. Et donc, je n'ai pas le temps de le montrer, mais et vous voyez à quel point Platon et stoïcien à ce niveau-là. Mais à quel point aussi c'est un stoïcien qui refuse le stoïcisme? Tout simplement parce qu'il montre la présence de l'intelligible dans les corps. L'intelligible se trouve dans les choses sensibles, par l'intermédiaire des logoi, qui sont des enula eidé. Et ça, Platon se serait roulé par terre parce que les eidés qui se trouvent dans la matière, c'est totalement impossible chez Platon. Mais chez Platon, c'est possible. Donc là, si vous le voulez, on va lire les trois textes parce que je pense qu'ils sont très révélateurs de ce que j'ai essayé d'expliquer. Si je les trouve d'ailleurs... Bon. Une seconde. Voilà, ils sont ici. Donc le premier texte, c'est un texte qui se trouve dans le traité 47 sur la providence. C'est un texte qui, chez Garnier Flammarion, a été traduit par Richard Dufour. Et vous allez voir, c'est un texte très intéressant et très beau. Et donc, tous ces textes, c'est sur la constitution du monde sensible et la providence. Donc, je commence. Et notre univers est né, en grec c'est gigioné, non par suite d'un calcul, en grec c'est logismos, et on trouve le terme dans le Timée. Donc, vous voyez, première critique du démiurge. Le démiurge, il ne pense pas avant de créer les choses sensibles. C'est automatique, c'est nécessaire. Donc, non pas la suite d'un calcul qui établit qu'il devrait naître, donc c'est une critique du démiurge, mais il résulte de la nécessité, ananke, c'est dans le texte, qu'il y ait une nature de second rang. Donc, la nature de second rang, c'est l'intellect. Et donc, Plotin ici explique que le véritable intellect, c'est le démiurge, même si le démiurge ne fait, le véritable démiurge, c'est l'intellect, même si l'intellect ne fait rien. Bien évidemment, l'intellect ne fait rien, il travaille, c'est l'âme du monde qui travaille, mais ce qu'il fait, il transmet à l'âme du monde les idées sous forme de logoi. Car le monde véritable, donc le monde véritable, c'est le monde intelligible, n'est pas tel qu'il doive être le dernier des êtres. Il est en effet premier, on le sait, car il possède une immense puissance, une puissance totale. Je vous renvoie donc au livre de Gwenaël Aubry sur la puissance, qui a été publié chez Vrin, et elle explique très bien ce que ça signifie. C'est donc une puissance qui peut produire autre chose sans chercher à la produire. Une autre critique du démiurge. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un artisan qui fabrique le monde est fabriqué automatiquement, donc pas de naissance dans le temps, pas par conséquent de destruction dans le temps. Car si elle cherchait à la produire, d'emblée, elle ne posséderait pas cette chose en elle-même et cette chose ne viendrait pas de la réalité même. Cette puissance serait semblable à un artisan, en grec, ce n'est pas démiurgos, ça c'est technites, qui ne tire pas de lui-même sa capacité de produire, mais qui la possède de l'extérieur. En grec, c'est « épacton », et c'est un terme vraiment très, très intéressant. Si vous connaissez un peu de grec, faites l'analyse de « épacton », et vous verrez à quel point c'est intéressant. Car il l'a acquise par l'apprentissage. En grec, c'est « matène », il a appris à travailler. Donc là, on a la fameuse critique aristotélicienne, le démiurge ne peut pas être un dieu, parce qu'un dieu est autarcique, et un être autarcique n'a pas besoin de rien apprendre, n'a pas besoin d'utiliser une matière, et n'a pas besoin de regarder un modèle. L'intellect, donc, qui donne quelque chose de lui-même à la matière, produit toute chose en demeurant calme et tranquille. Et je pense que dans les textes de Philippe, on va avoir le terme « esukia ». Donc, en gros, c'est aussi la caractéristique de la divinité. La divinité, à la scolaire, elle n'a pas besoin de travailler, elle ne se presse pas, elle fait ce qu'elle veut. Ce don, c'est la raison qui s'écoule de l'intellect. Donc là, on trouve la raison, donc on a l'intellect, et de l'intellect vient l'âme, qui est la raison. La raison au singulier, c'est le réservoir de tous les logoi, de toutes les raisons. Car ce qui s'écoule de l'intellect est une raison, et cette raison ne cessera de s'écouler aussi longtemps que l'intellect sera présent dans les êtres. Donc vous voyez, ça c'est fondamental aussi pour la cosmologie. Ce n'est pas une cosmologie, le monde n'apparaît pas dans le temps. C'est un processus automatique et nécessaire. Il en va comme pour une raison qui se trouve dans une semence. Donc là on n'a pas la comparaison avec l'ADN ou le programme d'ordinateur, on a... La comparaison avec la semence en grec, sperma. Même si toutes les parties se trouvent ensemble et au même endroit, sans que l'une entre en conflit avec une autre, il en va comme pour une raison qui se trouve dans une semence. Même si toutes les parties se trouvent ensemble et au même endroit, sans que l'une entre en conflit avec une autre, et un différent avec une autre lui fasse obstacle, ce qui vient à l'aide possède d'emblée une masse, en grec « onkos ». Ces parties occupent des lieux différents et bien sûr, elles ne se nuisent pas ni ne se détruisent les unes des autres. Ça signifie que dans l'intellect et dans l'âme, les choses sensibles qui sont sous forme de « eide » et de « logoi » ne sont pas en conflit les unes avec les autres, alors que dans le monde qui nous entoure, tout est en conflit les uns avec les autres. Le feu, ça brûle le bois, ça fait fondre la glace, etc., etc. Puis il n'y a pas une feuille qui n'est pas en guerre avec une autre feuille dans le monde végétal. Il y a beaucoup d'animaux qui bouffent les autres, etc., etc. Donc, mais dans les logoi et dans les aïdés, il n'y a pas de conflit. De même, c'est à partir d'un seul et même intellect et de la raison qui vient de lui que notre univers surgit et se divise en parties, parmi lesquelles, de toute nécessité, les unes sont amicales et pacifiques, les autres hostiles et agressives. Elles se font du tort les unes, mutuellement, les unes de leur plein gré, les autres contre leur gré, et la destruction des unes donne naissance aux autres. C'est la fameuse transformation des éléments dans le petit mythe de Platon. C'est-à-dire que si, l'eau devient air, l'air devient feu, et inversement, etc. C'est néanmoins une seule et même harmonie. Donc là, on tombe du côté de la providence, parce que, comme chez les stoïciens, chez Platon, on a cette notion de sympathie, c'est-à-dire toutes les choses interagissent les unes avec les autres. Et je ne sais pas, un papillon au Brésil peut faire tomber, je ne sais pas, une pierre ici. Tout dépend des chaînes causales. Donc, c'est néanmoins une seule et même harmonie. Harmonie est un terme ici équivalent de symphonie que l'univers fait régner sur toutes les parties qui agissent et qui pâtissent de cette manière. Donc là, on retrouve la définition de l'ousia qu'on trouve déjà chez Platon. L'ousia d'une chose, c'est ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut ressentir. Même si chacune émet un son qui leur est propre, là c'est la métaphore filée de l'harmonie, une raison vient sur elle qui produit l'harmonie et l'ordre cosmique qui règne dans l'ensemble. Car notre univers n'est pas intellect et raison comme l'univers de là-bas c'est l'intelligible, puisqu'il se borne à participer de l'intellect et de la raison. Donc les choses sensibles ne sont que les images de l'intelligible, mais quand même l'intelligible se trouve dans le sensible. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait une harmonie pour que l'intellect et la nécessité y soient réunis. C'est le grand thème du Timée. Le monde sensible, c'est une synthèse entre l'intellect et la nécessité. La nécessité l'entraîne vers le mal et le conduit loin de la raison parce qu'elle n'est pas une raison. Il n'en reste pas moins que l'intellect domine la nécessité. Car le monde intelligible n'est que raison, et il ne saurait y avoir un autre monde qui ne soit que raison. Si quelque chose d'autre vient à l'être, il faut qu'il soit inférieur au monde intelligible et qu'il ne soit ni une raison, ni non plus une sorte de matière, car la matière est dépourvue d'ordre. Notre monde est donc un mélange des deux qui a pour ingrédient la matière et la raison, et pour origine une âme qui préside à ce mélange. Donc c'est la synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Il faut croire que cette âme ne subit aucun dommage puisqu'elle gouverne facilement notre univers par une sorte de présence. Et donc ça, c'est absolument essentiel pour la divinité. La divinité ne fait pas d'effort. Donc j'ai le temps de lire les autres textes, les deux autres textes. Donc les deux autres textes, c'est des textes qui viennent des traités 27-28, sur les difficultés relatives à l'âme, qui devait être une discussion entre Platon et Porphyre au cours des réunions. Donc, c'est le traité 27, Énéade 4-3, chapitre 10, à partir de la ligne 10. Or, cela a été mis en ordre. Donc, notre univers n'est pas créé, il est mis en ordre. Or, cela a été mis en ordre en vertu d'une raison, d'un logos, que l'âme possède en puissance par l'ensemble d'elle-même, parce que l'âme possède en puissance par l'ensemble d'elle-même de mettre en ordre en vertu des raisons. Tout de même que les raisons qui se trouvent dans les semences, on retrouve l'image, façonnent et informent les vivants qui sont comme des mondes en petit. Donc, les vivants, les animaux, les êtres humains sont des microcosmos. Car tout ce qui entre en contact avec l'âme est produit conformément à ce que, en elle-même, possède naturellement l'âme pour le produire. Et celle-ci produit non en vertu d'une décision adventice. La critique du démiurge. Le démiurge décide de produire. L'intellect et l'âme ne décident pas de produire. Donc, on retrouve ici Épacton. Ni en attendant souhait et délibération. En ce cas, elle ne produirait pas suivant la nature, fusis, mais suivant une technique, techné, et on retrouve Adventis, Épacton. Car la technique vient après la nature et elle limite en produisant des imitations obscures et sans force, des jouets qui ne valent pas grand-chose. C'est une image utilisée par Platon pour décrire les choses sensibles dans le politique. Même si elle se sert de plusieurs instruments en vue de produire une image de la nature. Mais l'âme est, par la puissance de sa réalité, maîtresse des corps. c'est un mot qu'on trouve, c'est despotisme qu'on trouve dans le Timée de Platon, en les faisant venir à l'aide et en les disposant dans l'état où elle les amène, car ils n'ont pas au début le pouvoir de s'opposer à sa volonté. On retrouve cette idée que dans l'intelligible, il n'y a pas de conflit. Plus tard, en effet, parce qu'elles se contrarient mutuellement, les corps sont souvent privés de la possibilité d'atteindre la forme qui leur est appropriée, celle que la raison, opérant sur une petite échelle, veut qu'ils aient. Mais ici, où même la configuration de l'univers vient à l'être sous l'action de l'âme et où les choses qui viennent à l'être se trouvent tout ensemble ordonnées, donc il y a non seulement la production du monde sensible, mais leur ordonnance par l'intermédiaire de la Providence, ce qui vient à l'être est beau, sans effort ni obstacle. Le monde est beau et sa production se fait sans effort ni obstacle, c'est-à-dire sans travail. En ce monde, l'âme a édifié des sanctuaires pour les dieux. C'est un très beau texte, ça. Les sanctuaires pour les dieux, c'est les astres. Des habitations pour les hommes, c'est le corps humain. Et d'autres objets pour d'autres êtres. Qu'est-ce donc qui doit venir de l'être, sinon les choses qu'elle a la puissance de produire? Il appartient en effet au lieu de rendre les choses. Il appartient en effet au feu de rendre les choses chaudes et à autre chose de les refroidir. Mais la puissance de l'âme est double. Et là, on retrouve la notion de double acte dont parlera probablement Jean-François Balaudet. L'une reste en elle, tandis que l'autre en sort pour aller vers autre chose. En d'autres termes, l'âme produit le feu. Donc, c'est le premier acte, lequel feu va réchauffer les choses, c'est le deuxième acte. Le premier acte, c'est un acte intérieur, qui est spirituel, et le second, extérieur, qui est corporel. Et vous allez le voir, en effet. Donc, l'une reste en elle, tandis que l'autre en sort pour aller vers autre chose. Dans les choses qui sont dépourvues d'âme, en effet, la première des puissances se trouve, pour ainsi dire, en sommeil, tandis que l'autre qui en sort, et qui va vers autre chose, consiste à rendre semblable à l'argent ce qui est susceptible d'être affecté. Et cela, bien sûr, est une caractéristique commune à tout ce qui est de rendre semblable à soi-même. Or, l'activité de l'âme est quelque chose en éveil. En d'autres termes, les choses sensibles y sont à la fois au repos et en acte, alors que dans l'âme, l'âme est pure énergeia, elle est toujours en activité. Or, l'activité de l'âme est quelque chose en éveil, aussi bien celle qui reste en elle-même que celle qui va vers autre chose. L'âme fait donc vivre aussi les autres choses qui, d'elles-mêmes, n'ont pas la vie, et leur donne ce genre de vie suivant lesquelles elle vit elle-même. Et on va voir que ça va vraiment très loin dans le troisième texte. Dès lors, donc, qu'elle vit dans la raison, elle donne au corps une raison qui est une image de celle qu'elle possède, car tout ce qu'elle possède, car tout ce qu'elle donne au corps, c'est une image de la vie. Elle donne aussi des figures au corps dont elle possède les raisons. Elle possède les raisons des dieux et de toutes choses. Et voilà pourquoi le monde contient toutes choses. Et je termine rapidement le troisième texte qui est un peu bizarroïde. Et pour vous dire que chez Plotin, comme chez les stoïciens, le vitaliste, ça va jusqu'au niveau des pierres. Donc c'est dans le traité suivant, le traité 28, 4-4, Chapitre 27. Si donc, c'est la question de savoir si la terre a une âme. Si donc la terre donne aux végétaux la puissance de se reproduire. Donc, comme il y a une âme dans les végétaux, la question est de savoir d'où vient cette âme. Si donc la terre donne aux végétaux la puissance de se reproduire, soit qu'elle donne cette puissance de se reproduire elle-même, soit que cette puissance de se reproduire se trouve dans la terre, alors que dans les végétaux, on n'en trouve qu'une trace. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'ichnos, mais je n'ai pas le temps ici. Même dans ce cas, les végétaux seraient comme la chair déjà dotée d'une âme, et si on suppose que la terre la possède, ils recueilleraient aussi en eux cette puissance. Comme elle est présente dans la terre, cette puissance donne au corps du végétal ce qu'il y a de meilleur en lui, ce par quoi il est différent d'une branche coupée, ce qui n'est plus un végétal, mais seulement un morceau de bois. Et là, le disciple pose la question, mais qu'est-ce que l'âme donne au corps de la terre? Platon répond, on ne doit pas considérer qu'un morceau de terre arraché au sol reste le même que lorsqu'il y est attaché. Par exemple, on voit bien que les pierres croissent tant qu'elles restent attachées à la terre, tandis que, une fois qu'elles sont séparées, elles conservent la taille qu'avait tel ou tel morceau quand on l'a extrait. Heureusement, parce que les maisons, ça poserait des problèmes. On doit donc considérer que chaque morceau de terre conserve une trace de la puissance de se reproduire et qu'en lui se trouve diffusée la faculté végétative en sa totalité, qui n'appartient plus à telle ou telle nature, mais à l'ensemble de la terre. Par la suite, vient la réalité sensitive qui n'est pas mélangée au corps, mais est véhiculée par lui, puis vient le reste de l'âme, c'est-à-dire l'intellect. Cette âme, les hommes, inspirés par une tradition qui vient des dieux et pourvus d'une capacité divinatoire qui s'applique à ce genre de choses, les hommes l'appellent donc Hestia et Déméter. Donc c'est une explication qui fait qu'on donne à la terre, on fait de la terre une déesse. Il y a un bon article de Jérôme Laurent sur le sujet. Vous l'avez au bas de votre exemplier, le schéma. Donc, je m'arrête là, j'ai pris trop de temps.